session sur la personne humaine par le Père Marie-Dominique Philippe le 2 juillet 2002 à Saint-Judard, deuxième conférence.
On répond rapidement aux questions, mais c'est très important, je crois, parce que il faut autant que possible réfléchir sur cette question qui devient pour la philosophie actuelle une question centrale. Or, je ne peux pas parler de la personne si je ne parle pas de l'âme. Puisque c'est mon âme qui me donne, au point de vue vie, une certaine autonomie. Je suis, point de vue de l'être, et une certaine subsistance. Je n'en ai pas parlé de la subsistance, mais je en parlerai ce soir avec le point de vue de l'âme, c'est-à-dire une certaine autonomie dans l'être. Nous avons une certaine autonomie dans notre être, par notre âme. Tandis que l'animal n'a pas d'autonomie dans son être. Il dépend de son espèce. Nous avons, par notre âme, que nous pouvons découvrir philosophiquement, cette subsistance propre et personnelle. Alors voici ces questions. Puisque la personne implique l'unité substantielle de l'âme et du corps, peut-on encore parler de personne après la mort ? Au sens rigoureux, la personne s'exprime en premier lieu dans cette détermination profonde qui me donne une certaine autonomie. Mon corps est essentiellement uni à mon âme. Mon âme fait subsister mon corps, mais l'âme est la partie principale. Ce n'est pas deux parties égales. L'âme assume le corps. Et vous voyez, ça, on en a l'expérience quand les médecins parlent d'avoir un peu de morale. Et quand ils disent à propos de quelqu'un qui est malade, ah, il n'a plus le moral. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est l'âme qui porte notre corps. C'est l'âme qui se sert de notre corps. C'est l'âme qui précise ma finalité et se sert du corps pour atteindre cette finalité. C'est mon âme, l'élément dynamique et premier. Donc, ne plus avoir de morale, quand le médecin dit ça, on voit très bien. Ça veut dire que notre âme est comme fatiguée de lutter contre le mal. Et étant fatiguée de lutter contre le mal, elle laisse aller. On s'abandonne à sa maladie. On s'abandonne à cet état dans lequel on est de fatigue. On s'abandonne à son corps. Quand on est fatigué le soir, après une journée, on a beaucoup travaillé, on est fatigué, on a besoin de se reposer. Parce que, à ce moment-là, on ne porte plus son corps. Notre âme ne porte plus notre corps avec la même force, la même ardeur. C'est notre âme qui est fatiguée, c'est pas notre corps. Mais notre corps devient pesant pour notre âme. Alors, peut-on encore parler de personne après la mort ? Oui, à cause de l'âme. L'âme étant immortelle, mais je dirais la personne est endeuillée du corps. Le deuil. Le corps est le compagnon de mon âme. Et un compagnon guenille, hein, fameuse parole, guenille si on veut, mais c'est quand même mon corps. Comparativement à mon âme, mon corps n'a pas la même subtilité. Il est lourd. Mais il permet à mon âme de se manifester. Je me manifeste par le regard. Je me manifeste par tous mes sens. Et mon âme se traduit à travers le corps. Mon corps manifeste. Il fait plus que de manifester, parce que mon corps incarne mon âme. Mon âme est dans mon corps. Et elle est partout, mon âme, hein, au bout du doigt. Vous touchez votre âme. Quand vous touchez votre petit doigt. Et l'âme transforme, c'est, quand on dit union substantielle de l'âme et du corps, c'est justement une union intérieure tellement profonde que les deux font un. La personne est une. Et elle est mon âme, premièrement. Elle est aussi mon corps, mais pas premièrement. Quand vous voyez un athlète, un corps bien développé, vous ne dites pas « Oh, quelle belle personne !» Et vous dites ça spontanément quand vous touchez quelqu'un qui pense sérieusement, profondément, et qui touche alors son âme. De sorte que c'est très vrai, l'âme et le corps sont substantiellement unis. Et quand je dis substantiellement unis, je veux dire qu'ils forment une unité. Ma personne est une. Mais elle implique, comme premier élément, l'élément fondamental, mon âme. Pourquoi avez-vous parlé de la dualité de l'âme et du corps ? N'est-ce pas plutôt une distinction ? Oui, tout à fait. Dualité, tout simplement, pour vous faire comprendre qu'il y a deux tendances. Il y a des personnes qui développent énormément leur âme spirituelle. Il y a des personnes qui développent énormément leur corps. Alors, il y a dualité psychologiquement, mais pas dualité réelle. Je n'ai pas en moi deux êtres. J'existe et je vis grâce à mon âme. L'âme est la partie principale qui détermine, qui achève, qui finalise. Mon corps est finalisé par mon âme. Mon corps est déterminé par mon âme. L'âme est la partie principale, première. Mais je suis tout à fait d'accord de dire que l'âme et le corps, ce n'est pas une véritable dualité. C'est beaucoup plus dans la manifestation. Le corps cherche à se manifester, toujours. Il réclame. Il n'aime pas d'être un esclave. Alors il veut se manifester. Et il se manifeste par la puissance du corps, par l'agilité du corps, par l'individualité du corps. L'âme se manifeste par l'intériorité. celui qui pense, celui qui aime. Et c'est vrai. Et je suis là, dans cette vision d'intériorité. Donc, ne dites pas de dualité, il y a l'unité substantielle entre le corps et l'âme. Mais il y a une distinction réelle entre le corps et l'âme. Et on ne sait pas à quel moment l'âme est créée par Dieu. Le corps, il est formé par l'union du père et de la mère dans l'acte sexuel. Mais le corps, je vois son développement. Actuellement, on a étudié très fort le développement du corps et on ne sait pas avec exactitude. Même le Saint-Père, quand il parle de la vie, dit qu'on ne peut pas le savoir. Et c'est vrai, philosophiquement, je ne peux pas le savoir. Donc, on a des positions apologétiques, mais qui ne sont pas toujours vraies. Quand je dis une position apologétique, c'est pour sauvegarder une certaine droiture, une certaine vérité. Mais on garde moins l'exigence de la vérité parce qu'on devrait dire qu'on ne sait pas. Je crois personnellement, et c'est une opinion, l'embryon, à un moment donné, a un cycle de son sang qui est distincte de celui de la mère. C'est très curieux. Dans l'écriture, l'âme est quelquefois identifiée au sang. Il y a une certaine similitude entre le sang et l'âme. Et le sang, et ce qu'il y a de plus subtil en nous, le sang fait partie du corps. Et donc, il y a un moment donné où le cycle du sang est propre à l'embryon. Alors je crois qu'en effet, qu'à ce moment-là, il y a une forme substantielle suffisamment forte, suffisamment puissante pour faire que, de fait, l'embryon a son cycle sanguin. Tandis qu'au point de départ, l'embryon est complètement relatif à la mère et n'a pas de cycle propre. Il est trop dépendant de la mère. Mais c'est une opinion, c'est pas plus. Qu'ajoute la philosophie première à l'étude de la personne en philosophie du vivant qui distingue l'âme et le corps? C'est de montrer que c'est par mon âme que je subsiste. C'est tout le problème de la subsistance, c'est-à-dire d'être par soi. Le corps n'existe qu'à cause de l'âme, que par l'âme. Et avant que l'âme soit là, les anciens, saint Thomas, disaient qu'il y a une virtus generativa. Alors, la virtus generativa, virtus, c'est une vertu, c'est une puissance, c'est une activité qui vient du Père et de la Mère et qui fait que l'embryon a une vie propre, mais totalement dépendante de la mère. Et c'est vrai, même quand il a son cycle de sang, il ne pourrait pas être séparé. L'embryon, quand il y a une fausse couche, trop avant l'heure normale, alors, les petits embryons peuvent continuer de vivre sous cloche. Et quelquefois, ils ont de la peine de vivre. On crée comme un milieu le plus semblable au milieu maternel. Ou déjà qu'il soit très formé. Parce que quand ils ne sont pas formés, ils ne peuvent pas vivre. Mais quand ils sont formés, un mois avant la naissance, ou un mois et demi avant la naissance, on peut faire qu'ils continuent de vivre et qu'ils rattrapent le temps perdu. Ils sont très fragiles, ils sont très dépendants d'un milieu, mais ils ont en eux-mêmes de quoi vivre. Tandis que l'embryon, au point de départ, ne pourrait pas vivre en dehors du sein maternel. Il est beaucoup plus dépendant du milieu dans lequel il est, dans lequel il vit. Préciser le moment où l'embryon a son cycle sanguin propre, je crois que c'est le signe qu'il y a une âme. Mais Dieu a créé l'âme sans rien dire. C'est ça qui est très extraordinaire. Cette chose si grande, si extraordinaire, de voir que Dieu permet aux hommes, à l'homme et à la femme, d'engendrer, d'être père et mère d'un être nouveau. La vie se communique. Et se communique de cette façon très étroite qu'il y a vraiment une communion vitale, très profonde, entre la mère et le petit embryon. Il y a cependant une séparation qui va en augmentant. Regarde le cycle de l'embryon jusqu'à la naissance. C'est ça qui est très, très beau à voir, du reste. C'est très, très étonnant de voir que l'embryon, progressivement, acquiert son autonomie. Par son âme, il acquiert son autonomie. Et lorsqu'il naît, il se sépare de la mère et a sa vie propre. Alors, sûrement que l'âme est déjà causée, est déjà créée, sûrement à ce moment-là. Mais à quel moment on peut discuter indéfiniment? On peut seulement donner quelque chose qui nous semble être cela. la philosophie première à l'étude de la personne en philosophie du vivant, qui distingue l'âme et le corps. Oui, la personne sera l'union substantielle de l'âme et du corps. Cette union existe d'abord dans le sein maternel, c'est sûr. Certains prétendent que l'âme est créée au moment de la conception. Alors ça devient très difficile de voir les jumeaux. Parce que les jumeaux, il y a deux âmes quand même. L'âme ne peut pas se diviser en deux. Donc, il faut que déjà la division existe au niveau temporel, au point de vue du corps, au point de vue du fœtus, pour qu'il y ait deux âmes. Dieu a créé deux âmes quand il y a des jumeaux. Alors, il faut que la séparation s'est faite d'abord dans le corps, dans l'embryon, pour qu'il y ait deux réceptacles de l'âme. C'est pour ça que ce n'est pas commode de dire que l'âme est créée en même temps que l'embryon, en même temps que la conception. Non, puisque au moment de la conception, il n'y a pas encore la division dans le fœtus de deux. Je sais que ça vient très vite, mais c'est quand même pas en même temps. Alors il y aurait deux âmes dans un seul fœtus, impossible. C'est pour ça que je crois que l'âme n'est pas créée en même temps. Et ceux qui soutiennent absolument ça, c'est très souvent pour des raisons apologétiques. Pour montrer que tout de suite, il faut respecter le petit être humain. Et c'est vrai qu'il faut le respecter tout de suite parce que c'est un homme en promesse. Le petit fœtus est fait pour devenir un homme, pour devenir une femme. Donc, déjà, dans l'embryon, il y a la promesse de la personne, tout de suite. Promesse, si l'âme n'est pas là, si l'âme est créée, alors c'est déjà la réalité. Mais on ne sait pas avec certitude quand est créée l'âme. Et je trouve ça très beau, du reste, moi. Philosophiquement, je trouve ça très beau. Puisque, quand même, c'est une action merveilleuse de Dieu de créer l'âme. De répondre au désir de l'homme et de la femme. De répondre au désir du père et de la mère. C'est pas le père et la mère qui donnent l'âme, c'est Dieu. Et Dieu le donne à partir du petit fœtus. Donc c'est une réponse de Dieu. Ce qui fait que dans la procréation, il y a le désir de l'homme et de la femme d'avoir un enfant. Et Dieu répond à ce désir pour créer l'âme. Comment distinguer l'âme et l'esprit? Comment distinguer l'âme et l'esprit? Alors ça, nous allons voir tout de de suite après. Nous allons voir en voyant l'intelligence. La vertu de justice ne fait-elle pas partie des éléments constitutifs de la personne et les vertus morales? Oui, attendez. Nous faisons une analyse. Je ne n'ai pas le petit enfant vrai qu'il a la justice. Vous n'avez jamais tenu un enfant dans les bras et vous lui dites sois juste, hein, sois juste. Avec ton petit frère ou ta petite soeur, attention, la justice. Il ne sait pas ce que c'est. La justice apparaît quand? La justice, je l'acquiers. Elle ne m'est pas donnée en naissant. Non. Les vertus morales, je les acquiers. Ça fait partie de l'éducation. Alors c'est constitutif de la personne, puisque la personne, on l'acquiert, mais ce n'est pas les premiers éléments fondamentaux, naturels, parce qu'il y a des hommes justes et des hommes injustes. Il y a des personnes justes, je suis tout à fait d'accord que la justice fait partie de la personnalité, mais avant la justice, il y a l'âme. S'il n'y avait pas l'âme, il n'y aurait pas de justice. Dans un troupeau de vaches, vous croyez qu'il y a de la justice? Dans un troupeau, d'oiseaux, une bande d'oiseaux, vous croyez qu'il y a de la justice? Non. C'est le plus fort qui l'emporte, toujours. Parmi les animaux, la force du corps est première. Parmi les hommes, la force du corps n'est plus première. C'est l'âme. Avoir une belle âme, une belle âme imprégnée de justice. Ça, on va le voir. On verra que la justice fait partie de la personne. Ça, c'est sûr. Mais pas tout de suite. Il y a des choses plus fondamentales que la justice. L'individu est-il toujours un être vivant? Non. L'individu, la pierre. Alors, vous ne direz pas que la pierre est un individu. Vous direz qu'elle est individuelle. Vous direz qu'elle est unique. Quand vous voyez une pierre précieuse, vous la taillez. Vous lui donnez une figure, une forme. Mais l'individu, évidemment, l'expression de l'individu est donnée surtout aux êtres vivants. Une pierre a son individualité. Regardez les tailleurs de pierre. Elle a son individualité. Elle ne ressemble pas à une autre pierre. Pourquoi dites-vous que nous devenons une personne? J'en ai l'exemple. Je vois des êtres humains qui ont beaucoup de difficultés d'avoir une personne. Ce sont des moutons de Panurge. Ils suivent. Vous voyez, au moment des votations, comme on dit en Suisse, les votations, si vous ne faites pas beaucoup de politique, vous allez demander aux gens compétents, est-ce que cet individu, cette personne qui se présente, eh bien, quel parti ? Bon. Déjà, il y a tellement de partis qu'on ne sait pas quel est le meilleur. Alors, on le voit négativement. Quelqu'un qui ne respecterait pas l'attitude religieuse de quelqu'un, on peut l'exclure. Parce que l'attitude religieuse fait partie de ma personne. Alors, nous devenons une personne petit à petit, plus ou moins accentuée, plus ou moins déterminée, mais nous grandissons. Vous n'allez pas dire à un enfant dans le berceau, « Oh, quelle belle personne !» Dites ça un petit peu une fois. Quand vous voyez un enfant dans le berceau, vous dites, « Oh, quelle belle personne !» Alors, les parents regardent, on dit, il a dû apprendre dans le dictionnaire qu'on dit personne pour l'homme ou la femme. Une personne, un enfant, un tout petit enfant dans son berceau, c'est un individu. Il deviendra une personne s'il est bien éduqué. Mais petit à petit, ça demande du temps. Et vous pouvez très bien, en raison de la santé, ne pas acquérir la possibilité d'être une personne. Parce que vous avez attrapé une maladie très forte qui vous a empêché de développer votre intelligence et votre volonté. Et donc, votre personne est très annihilée, très peu développée. Vous voyez, quand vous voyez des gens très handicapés, on a de la peine de dégager leur personne. Ils en ont une personnalité très cachée, très embryonnaire, mais c'est quand même une personne. Vous la baptisez comme une personne. Mais il y a un moment donné où vous ne dites pas que c'est une personne, c'est un individu. Un individu particulier. Mais il n'y a aucun signe d'une personne. Ça existe, aucun signe. Et vous vous demandez si il y a une âme. Est-ce que vraiment il y a une âme ? Je parle d'un cas extrême, hein, mais qui existe. À ce moment-là, quand on est consulté pour savoir si on peut le baptiser ou pas, l'Église demande de dire « si tu es capax, si tu es capable d'être baptisé, je te baptise. » Parce que ce petit qui vient de naître est tellement difforme. Je connaissais des sages-femmes à Fribourg, c'était des sœurs. Et une fois, elle m'a dit, « Ah, j'ai vu un petit, on ne l'a pas montré à sa mère. » On dit que c'est un homme ou une femme parce que il vient de sa mère, mais il n'y avait rien. Un bloc de chair. Et c'est effrayant. Alors, elle a interrogé la mère qui avait eu. C'est une très jeune mère, une vie déjà très impossible. Une déformation complète. Peut-on baptiser ? On baptise l'âme, pas le corps. C'est l'âme qui est baptisée. C'est l'âme qui reçoit la grâce. Alors c'est pour ça, quand c'est par trop difforme, on peut baptiser en disant « si tu es capable, si tu es capable, je te baptise. » Alors, pourquoi dites-vous que nous devenons une personne ? Oui, alors c'est le devenir dans la personne. Parce qu'on grandit dans sa connaissance et son amour. On grandit, ça c'est sûr. On se développe. Ne le sommes-nous pas radicalement dans notre être, être et devenir dans la personne ? C'est sûr, notre âme, elle n'a pas de dimension, puisqu'elle est spirituelle, elle n'est pas corporelle. Donc notre âme elle a une dimension par le corps. Alors, si je parle tout à fait strictement, je dirais c'est le corps qui grandit. Ça, c'est bien évident, puisque vous l'avez mis dans un berceau, le berceau est devenu trop petit. Puis vous étiez dans un lit d'enfant. Le lit d'enfant est devenu trop petit. Est-ce que c'est l'âme qui a grandi ? Non. Au sens profond, c'est l'âme dans le corps qui grandit. Ah ça oui. Le corps grandit et parce que l'âme est dans le corps, mon âme, en raison même de mon corps, a une espèce de développement virtuel à travers le corps. Donc, c'est mon corps qui grandit, mais comme mon âme est dans mon corps, si mon corps grandit, mon âme grandit. Elle grandit dans le sens par le corps. Elle est de plus en plus présente dans le corps. Alors, le tout petit enfant, je ne veux pas dire qu'il a une petite âme et qu'après il aura une grande âme. Non. L'âme est indivisible. L'âme est sans quantité. Donc elle n'est ni petite ni grande. Elle est l'âme. Elle est spirituelle, immatérielle. Mais elle est tellement liée au corps que si le corps grandit, l'âme grandit. Alors, pouvons-nous grandir dans notre autonomie substantielle ? Vous voyez, au fond, d'une façon tout à fait précise, on ne peut pas grandir quant à son autonomie substantielle. Mais si nous regardons l'âme et les effets de l'âme, l'âme est présente dans le corps. Et donc, elle est présente dans le corps d'un homme jusque dans son petit doigt. Mon âme est présente dans mon petit doigt. Mais si mon petit doigt, je le coupe, je ne coupe pas mon âme. Vous ne pouvez pas couper votre âme. Si on a est obligé de vous couper le bras. Je me souviens, mon philosophe de Lausanne, protestant, on a été obligé de couper son bras. Alors, il était philosophe. Il m'a dit, je réfléchis beaucoup, mon bras coupé. J'ai une drôle de sensation. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Je suis privé de mon bras. Oui, je suis privé. Mais mon âme n'a pas été touchée. Ah, j'ai souffert. Mais mon âme n'a pas été touchée. Je suis resté aussi intelligent qu'avant. C'est sûr. Alors, il me racontait l'expérience qu'il faisait d'avoir son bras coupé. J'ai dit, j'aime autant ne pas avoir cette expérience et garder mes deux bras. Alors, il a souri en disant, oui, mais quand on est forcé de vous couper le bras, il y a quelque chose de vous qu'on abandonne, quelque chose de nous qui abandonne notre bras. Il n'y a qu'une chose qu'on ne peut pas avoir l'impression de vivre sans, c'est la tête. Ça c'est sûr. On peut, aujourd'hui, tu vois, c'est le problème qui se pose. Certains, on peut tout transformer, on peut tout changer. Alors, on peut avoir un corps individuel tout à fait différent de mon premier corps naturel. Je me souviens de ce brigand qu'on cherchait. Il y avait des affiches, c'était à Genève. Il y avait des affiches sur entre ce brigand. Et ce brigand, complètement changé, est venu frapper au couvent. Et puis, en voyant un père, il lui a dit, vous me reconnaissez ? Il a dit, non, je ne vous reconnais pas. Attendez une seconde. Il a enlevé sa perruque, il a enlevé tout. Il a enlevé même son nez. Ses dents, tout. Absolument méconnaissable. Il le savait. Il voyait sa photo. On recherche le brigand. Et ce brigand se confessait. Ah, t'es pas bête. Et il s'est pas caché au confesseur. Elle a dit rapidement, à toi, je peux dire que je suis ce brigand. Je sais que tu ne vas pas me dénoncer. Mais le père en question m'a dit, ça a fait un drôle de coup. Oui, l'individu, vous le rapiécez, vous le rajeunissez, des dents nouvelles, des yeux nouveaux, tout, des bras. Et on ne va pas aller trop loin, hein. Si on prenait tout, il n'y aurait plus grand-chose. Mais on rêve de ça. L'âme. Alors, elle informe. Est-ce qu'elle informe le bras ajouté ? Non. C'est une pièce rapportée. Elle n'informe pas. Alors, mais quand vous enlevez un doigt, vous pouvez le recoudre. Ah, si c'est votre doigt, mais c'est un autre doigt, est-ce que l'âme va l'informer aussi ? On peut vous enlever le rein, un rein, et en mettre un autre. Les greffes, est-ce que l'âme informe ça ? Oui, je crois. Il vit grâce à mon âme. L'âme est spirituelle, on ne peut pas la couper. mais par le corps, on la coupe. Quelle différence entre l'autonomie psychologique et l'autonomie vitale et l'autonomie substantielle du « je suis » ? Ça, c'est une très bonne question. L'autonomie psychique, psychologique, c'est d'être capable de prendre des décisions. Si vous êtes trop malade, trop inquiet, vous n'arriverez plus à prendre des décisions. Alors, on vous mettra en tutelle. Ah. Vous mettre en tutelle, c'est parce que psychologiquement, votre personnalité a diminué pour un vieillard. On peut mettre en tutelle parce qu'il devient incapable de prendre une résolution, une décision. Autrement, s'il n'était pas en tutelle, il pourrait signer n'importe quel billet de banque, n'importe quel chéquier. On le ferait tout de suite, on l'utiliserait. Donc, on voit bien que l'autonomie psychologique, c'est d'être capable de prendre des décisions, même dans des cas très graves. Et cette autonomie peut être diminuée, elle comporte du plus et du moins. L'autonomie substantielle ne comporte pas du plus et du moins. Je suis né et j'ai cette autonomie dans l'être. Tandis que l'autonomie psychologique a du plus et du moins. L'autonomie vitale, c'est d'être en bonne santé. En bonne santé. Mon corps en bonne santé peut vivre seul, indépendant des autres. Mais je peux très bien arriver, étant malade, je n'ai plus cette autonomie vitale. Je dépends de la petite brouette dans laquelle on transporte. L'autonomie dans mon être, c'est l'autonomie substantielle, c'est mon âme. Elle est radicale. Mais je peux, au point de vue de l'exercice, diminuer cette autonomie vitale. Je ne circule plus de la même façon. Je ne peux plus avoir une activité aussi grande. Et donc, cette autonomie dans l'ordre de la vie s'en ressent. Et mon autonomie substantielle ne peut plus se démontrer de la même manière. Mais c'est très important de voir que fondamentalement, c'est mon âme, c'est pas mon corps qui est source d'autonomie. Mon corps a été en dépendance de ma mère, de mon père. J'ai acquis progressivement une indépendance, d'abord purement psychique, purement physique et psychique. Puis petit à petit, une autonomie beaucoup plus profonde du choix de ma vie. Au fond, la personne humaine va s'enraciner dans le choix. Une vie où il n'y a pas eu de choix d'orientation, la personne sera toujours handicapé. Le choix, l'orientation, ma vie, indispensable à cette autonomie. Mais elle est plus ou moins grande. Vous voyez, on voit ça quand les gens commencent à douter sur le mariage qu'ils ont fait. Est-ce qu'il est indissoluble? Est-ce que vraiment j'étais libre, autonome, de faire ce mariage? Ou il y a eu des pressions trop fortes de mes parents qui ont trouvé qu'il y avait quelqu'un de magnifique pour moi, tout à fait fait pour moi. Il avait une grosse fortune. Et ça, les parents regardaient ça. La fiancée le regardait moins, parce qu'elle, ça lui est égal. C'était son fiancé qui était tout pour elle. Mais pour les parents, ça jouait beaucoup. Alors on a poussé. Vous voyez, l'autonomie, la liberté. Alors là, je commence par montrer l'autonomie et la liberté. Tandis que quand je parle de l'autonomie dans la vie, dans l'être, c'est la substance. C'est la substance qui est radicale. C'est mon âme. Mais quand je regarde les choix, sont-ils libres, pas libres? Alors là, ça dépend du milieu dans lequel je me trouve. Et c'est pas tout à fait la même chose. L'autonomie, c'est nécessaire pour choisir, mais ce n'est pas le choix. C'est au point de vue de l'être. Le choix, c'est déjà au point de vue vie et au point de vue vie de l'esprit, au point de vue vie spirituelle, plus ou moins spirituelle. Il y a donc des distinctions nettes à faire. Et quand je parle là de cette première autonomie pour la personne, je parle de l'âme substantielle qui nous donne cette autonomie dans le développement vital. Mais cette autonomie n'est pas parfaite parce qu'elle est constamment diminuée par le milieu dans lequel je suis. Elle serait parfaite si je vivais seul. Mais même vivant seul, j'ai besoin de pouvoir vivre. Donc, au point de départ, les parents, cette autonomie est enracinée dans l'âme, elle est substantielle et elle me permet tous les développements que nous verrons ensuite.